Il y a quelque temps, un jeune homme se présentait à la porte du numéro 4885 rue Chabot, Montréal, avec un questionnaire. C'était au temps du recrutement. La personne qui le reçut, c'est Mme Gilberte Côté-Mercier, directrice du journal Vers Demain. Elle aussi se permit de poser quelques questions au jeune homme. Vous êtes un étudiant, peut-être? Oui, madame. À l'Université de Montréal? Pardon, j'étudie actuellement au Mont-Saint-Louis. Ah oui, chez les frères des écoles chrétiennes. Comme cela, vous n'êtes pas communiste? Oh non, madame, je suis socialiste. Socialiste? Mais oui, madame, le régime actuel n'est pas bon et on ne veut pas du communisme. Alors, il faut bien prendre le socialisme. Connaissez-vous le crédit social? Non, madame. On ne vous l'a pas enseigné au collège? Non, madame. Il y a des fois que des gens en parlent du crédit social, mais on dit que c'est une utopie, une chose bonne à rien. Et voilà comment un jeune homme qui s'apprête à faire son chemin dans la vie, avec probablement l'idéal d'être de l'élite de demain, ne connaît pas d'autre issue au vice du capitalisme financier que le socialisme ou le communisme, la dictature bureaucratique du socialisme ou la dictature d'État absolu du communisme. Dans les deux cas, c'est la nationalisation, l'étatisation des moyens de production les uns après les autres, à commencer par telle et telle industrie pour s'arrêter où? Dans les deux cas, c'est le collectivisme. On y va par degrés dans le cas du socialisme. On y va plus brusquement quand c'est le communisme. On cherche à prendre le pouvoir par une élection quand c'est le Parti socialiste. On cherche à prendre le pouvoir n'importe comment, surtout par une révolution quand c'est le communisme, et on le conserve par la contrainte, la force policière, les délations, etc. Il y a évidemment des degrés dans le socialisme, car le socialisme politique est fluide, mitigeant ou accentuant ses programmes selon les circonstances, selon le degré de réceptivité de la population, selon les exigences de l'opportunisme politique. Il semble y avoir un socialisme d'approche, afin qu'une fois au pouvoir, il devienne un socialisme plus prononcé, allant par dose jusqu'à l'étatisme complet, comme un pays totalitaire, aussi vite que peuvent s'user les résistances. Dans notre pays, au moins au Canada français, la prédication ouverte du communisme serait mal reçue. Mais on ne se gêne pas, même et peut-être surtout parmi les intellectuels, parmi les professionnels et dans les rangs des chefs ouvriers, on ne se gêne pas pour mousser la cause du socialisme, pour créer au socialisme une bonne réputation. On va jusqu'à dire que l'encyclique Mater et Magistra a approuvé le socialisme, ce qui est une fausseté, c'est exactement le contraire. Mais on en parlera de ce sujet-là une autre fois. Mais, disent les socialisants, le régime actuel ne donne pas satisfaction puisque l'entreprise privée a fait faillite, il faut bien nationaliser. Comment? Vous dites que l'entreprise privée a fait faillite? Où donc a-t-elle fait faillite? Où s'est-elle montrée incapable de fournir les produits qu'on lui demande? Est-ce que c'est l'entreprise agricole privée qui laisse à désirer? Manque-t-on de produits agricoles au pays? Ou bien est-ce la production de vêtements, de chaussures, de meubles qui fait défaut? Serait-ce les entreprises de transport? Ou celles de construction? Ou quoi encore? Et où donc ça fait défaut? Ah non, répond-on, les produits et les services offerts ne manquent pas, mais ils coûtent trop cher. Ah, vous avez raison de trouver le prix trop élevé, mais il faut en chercher la raison, la vraie raison. Et ce n'est certainement pas en étatisant les entreprises que vous ferez baisser les prix. Les expériences déjà faites sont là pour enlever cette illusion. Nous avons un réseau nationalisé de chemin de fer, le Canadien national. Est-ce que ça vous coûte moins cher de voyager sur ces trains que sur les trains du Pacifique canadien, qui est une entreprise privée? Et ça vous coûterait encore plus cher par le Canadien national si on ne vous faisait pas payer par des taxes chaque année les déficits de ce réseau. Dans Québec, on a nationalisé une partie déjà des réseaux électriques. On a remplacé la Montreal Light Heat and Power par l'Hydro-Québec. Est-ce que les Montréalais paient moins cher leurs factures d'électricité avec l'Hydro qu'ils la payaient avec la Montreal Light? À Montréal, on a municipalisé le transport en commun pour la même raison, parce que c'était trop cher, disait-on. Comparer le prix des billets d'autobus d'aujourd'hui avec le prix qu'on payait à la compagnie de tramway. Le billet qui vous coûtait 8 sous et un tiers dans ce temps-là vous coûte aujourd'hui 15 sous. Le double presque. On a nationalisé l'hospitalisation au Canada. Alors, dans la province de Québec, à peine quelques mois après la nationalisation des hôpitaux, le premier ministre, le sage, se plaignait déjà que les hôpitaux coûtaient 32 millions de dollars de plus. Au bout de quelques mois, c'est encore bien pire aujourd'hui. Le gouvernement paie à la place des individus, c'est vrai, mais il paie avec l'argent collecté de la population. Et le prix est plus élevé. Dans les pays qui ont étatisé des industries, comme en Angleterre pour les mines de charbon, sous un gouvernement travailliste, les résultats ont été les mêmes. Moins de rendement et plus gros prix. Actuellement, Castro nationalise les industries dans Cuba. Il est rendu à nationaliser les petites industries. Déjà, l'industrie de la chaussure est nationalisée. Or, le ressemblage d'une paire de chaussures qui coûtait 1,5 peso il y a 2 ans coûte 5 pesos aujourd'hui. Le triple. Et le client doit attendre une semaine pour avoir ses chaussures ressemblées. Mais oui, mais l'entreprise privée a fait défaut en ne fournissant pas de l'emploi à tout le monde, dira-t-on. Voyons donc. Quel est le but de l'industrie? Est-ce de fournir du travail ou bien de fournir des produits? L'agriculteur, quand il laboure son champ, le fait-il pour se donner de l'ouvrage ou bien pour avoir des produits? Si vous construisez une maison, le faites-vous pour vous donner du travail ou bien pour avoir une maison? Si l'entreprise privée remplit les magasins aussi vite et même plus vite que vous les videz, elle fait bien sa besogne. Elle l'a fait encore mieux si elle n'a pas besoin de vous pour faire les produits, si elle vous donne du temps libre, si elle vous permet d'occuper votre temps à votre goût tout en fournissant les produits. Oui, oui, mais quand on n'a pas d'emploi, répond-on, on n'a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas obtenir les produits. Et si l'on a moins d'argent qu'il y en a dans les prix, on est bien obligé de se priver sur les produits. Ah, là, vous touchez la question capitale. C'est l'argent et non pas la production qui est en défaut. Or, la production sort de l'entreprise. Que l'entreprise soit privée ou non, ce sont des produits qu'elle fait. L'entreprise ne fait pas d'argent, elle fait des produits. L'argent peut passer par l'entreprise, mais il sort du système financier. L'argent qui sort du système financier passe par l'entreprise, que ce soit une entreprise privée ou non, pour distribuer des salaires, du pouvoir d'achat, des dividendes aux capitalistes. Mais l'argent passant par l'entreprise ne fait pas rien que distribuer du pouvoir d'achat. Il forme des prix. Toutes les dépenses de l'industrie sont introduites dans le prix. Même les dépenses qui ne sont pas faites pour donner de l'argent aux individus, pour donner de l'argent en salaire, en dividendes aux capitalistes ou autres, ils rentrent dans le prix. De sorte que le prix est toujours plus élevé que l'argent distribué. Et ça, c'est inévitable. Vous n'êtes pas capable d'arranger la comptabilité autrement. Elle est bien faite, la comptabilité. Mais toujours, vous aurez le prix d'un produit plus gros que l'argent qui a été distribué pour la fabrication de ce produit. On ne sort pas de là. Alors, il faut un correctif. Et le correctif ne doit pas passer par la même place. Il doit être en dehors de l'industrie. Il faut qu'un supplément de pouvoir d'achat vienne aux individus sans passer par l'industrie, donc sans entrer dans les prix. C'est-à-dire, comment ça pourrait-il se faire? Mais cela se fait justement par le mécanisme du crédit social. Le crédit social abaisserait les prix. Le niveau général des prix, il le mettrait au niveau général du pouvoir d'achat. Par un escompte sur tous les produits au magasin de détail. Le même escompte sur tous les produits. Si c'est 20% d'escompte, par exemple, au lieu de payer un produit qui vaut 10 piastres au prix de vente, vous le payez 8 piastres. S'il vaut 30 piastres, vous le payez 24 piastres. Et le marchand ne perdra pas parce qu'il recevra la différence, non pas de l'acheteur qui n'a pas le pouvoir d'achat équivalent au prix, il le recevra d'un mécanisme, d'un organisme social communautaire qui existerait exprès pour cela, pour adapter le système de finance aux besoins de la population, pour l'adapter à la production qui est devant la population. C'est ce correctif-là qu'il faut réclamer au lieu de demander de l'étatisation qui ne changerait rien, absolument rien, dans le rapport entre les prix et le pouvoir d'achat. Ce correctif-là, le crédit social le propose. Le socialisme, le communisme ne le propose pas. Il y a aussi un autre défaut dans le système qui attache le pouvoir d'achat rien qu'à l'emploi. Quel est le défaut-là? Bien, c'est que l'industrie, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, l'industrie ne peut pas employer tout le monde, de moins en moins aujourd'hui. D'abord, elle n'emploie pas encore les enfants, et elle n'emploie plus les vieillards, et elle n'emploie pas les femmes et les filles qui restent à la maison. Pourtant, tous ces gens-là ont besoin des produits. Et s'ils ne reçoivent pas de salaire parce qu'ils ne sont pas employés, comment pourront-ils acheter les produits? Tout le monde a besoin d'argent pour obtenir les produits. C'est pourquoi, dans un monde de progrès qui diminue le besoin d'emploi tout en augmentant la production, il faut une autre source que les salaires pour fournir du pouvoir d'achat. Le crédit social y pourvoirait par la distribution d'un dividende périodique à chaque citoyen. Un dividende qui augmenterait à mesure que la production peut se passer davantage de l'emploi tout en fournissant les produits. L'étatisation, le socialisme, le communisme ne font rien de tout cela. Ils ne font que soumettre les hommes à des plans d'État. Ils changent le statut d'homme en un statut d'animal domestique, attelé par l'État et nourri par l'État. Ce qu'il faut changer, ce qu'il faut accommoder, c'est le système qui fournit l'argent à la vie économique. C'est lui qu'il faut mettre au service des consommateurs pour que les consommateurs commandent eux-mêmes à la production du pays les choses dont ils ont besoin. Ils commandent à la production par leurs achats. Avec du pouvoir d'achat suffisant, ils achèteraient ce qui leur convient et la production produirait ce que les consommateurs achèteraient. Ce serait bien plus efficace que la pression des agents de vente et de la publicité à pleine colonne de journaux et à plein programme de radio qui essaient de faire des consommateurs mal financés acheter des choses qui ne sont pas du tout leur choix spontané. Le socialisme, le communisme veulent planifier la production, planifier les hommes, planifier les consommateurs, leur dire ce qu'ils doivent avoir, ce qu'ils auront la permission d'avoir, dire à la production qu'ils auront la permission de faire. Et ils ne pensent pas du tout à planifier l'argent qui, aujourd'hui, mène la production au lieu de lui obéir.
Eh bien, chers amis, nous venons d'entendre M. Louis Évin, qui est le directeur général du journal Vers Demain. C'est lui qui a fondé le journal Vers Demain il y a 24 ans. Il faut lire Vers Demain, mes amis, pour bien comprendre toutes ces choses importantes.